Europe Soir, le 18-20.
Julien Bugier.
Ah, c'est Isabelle Millet, mais c'est pas grave. Bonsoir à tous quand même. Ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Dans 20 minutes, je recevrai une femme au grand cœur, la comédienne Emmanuelle Béart, femme engagée. Elle est aujourd'hui ambassadrice du collectif Stop Exclusion Énergétique. Elle lance un appel aux dons pour aider ses victimes invisibles. Elle serait 12 millions de personnes en France à vivre dans des logements insalubres. Elles approchent, pourtant personne n'en parle ou presque, les élections régionales de juin prochain. On verra avec les grandes voix qu'on ferait bien pourtant de s'y intéresser, car l'enjeu va bien au-delà des régions. Et puis entre 19h et 20h, c'est votre débat du Club des Idées. Et ce soir, on va vous parler d'une femme qui a longtemps été mise sur un piédestal par la communauté internationale, présentée comme une icône. Elle a reçu tous les honneurs, même le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, la dirigeante birmane. Son pays est au cœur de l'actualité en ce moment. Icône toujours adulée par son peuple, mais désormais contestée par la communauté internationale. C'est l'histoire d'un destin, celle d'un pays aussi, que l'on vous racontera avec mes invités à partir de 19h20. Mais avant cela, l'info, le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 18h.
À Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, un confinement sera désormais adapté le week-end, dès ce week-end.
Même cause, même punition, comme Nice, Dunkerque va à son tour devoir se confiner le week-end, annonce il y a quelques instants du ministre de la Santé, Olivier Véran.
La situation est grave, mais pas encore tout à fait désespérée. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, écarte un reconfinement national, mais on vient de le voir avec Dunkerque, certaines agglomérations, certains départements n'échapperont peut-être pas à un nouveau tour de vis.
Un changement de ton de l'exécutif qui mérite une explication, Jean-Rémy Baudeau, dès le début de ce journal.
La campagne de vaccination débute demain chez les généralistes. On ne va pas dire que ça se bouscule au portillon, mais plus de la moitié d'entre eux ont quand même réservé des doses et des rendez-vous.
Émotion toujours très forte en Essonne après la mort de deux adolescents de 14 ans dans deux bagarres différentes. 6 jeunes devraient être mis en examen ce soir après la mort de la collégienne à Saint-Chéron.
La SNCF plonge dans le rouge. L'entreprise a perdu 3 milliards d'euros l'an dernier. Rien ne va plus, même pour le TGV. Mais la compagnie a un plan pour redresser la barre.
Tempête en Corée du Nord après la fuite d'un ressortissant qui est parvenu à rejoindre la Corée du Sud à la nage. 6 heures dans l'eau a déjoué la surveillance des militaires nord-coréens. Et puis la Bourse de Paris a terminé en légère hausse, plus 0,31% à 5 797 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Après une très belle journée, c'est quoi? C'est le retour des petites pluies demain?
Oui, mais alors vous avez bien fait d'insister sur petite, parce que c'est une sorte de crachin que nous aurons sur le nord-ouest demain. Ça va aller partout ailleurs. La journée s'annonce une nouvelle fois printanière avec une légère baisse des températures. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'actualité de ce début de soirée. Dunkerque va donc devoir passer en mode confinement le week-end.
Et oui, Olivier Véran l'a annoncé il y a un peu plus d'une demi-heure. Alors du côté des élus du Dunkerquois, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions, mais il va falloir quand même encaisser la nouvelle. Lionel Gougelot, on fait le point avec vous sur les mesures qui viennent d'être annoncées par le ministre de la Santé.
Oui, effectivement, Isabelle a commencé donc effectivement par cette mesure de confinement le week-end qui prendra effet dès ce vendredi soir prochain. Un confinement que le maire de Dunkerque espérait encore éviter hier en appelant à une grande campagne de sensibilisation sur les gestes barrières, sur le mode zéro rassemblement, zéro regroupement. Mais la situation du système hospitalier est telle ici à Dunkerque que le ministre décide donc ici aussi de frapper fort. 30 personnes sont accueillies, il faut le savoir, chaque jour aux urgences du centre hospitalier de Dunkerque. Confinement local donc pour enrayer une épidémie dans laquelle le variant anglais constitue ici 70% des contaminations. Et pour compléter cette mesure de confinement, eh bien Olivier Véran s'engage aussi sur un renfort des doses de vaccination.
À l'instar de ce que nous avons fait avec Nice, nous allons renforcer très fortement les dotations de vaccins en vue de protéger davantage encore les plus vulnérables de ce territoire, puisqu'il y aura 16 700 doses de vaccins supplémentaires qui viendront renforcer la campagne de vaccination au niveau du territoire. Pour part, il s'agit de redéploiement à l'intérieur de la région et pour autre part, il s'agit d'une dotation nationale supplémentaire.
À tout cela s'ajoutent des mesures de limitation de fréquentation dans les commerces, une jauge de 15 mètres carrés par client, le passage également des centres commerciaux de plus de 5000 mètres carrés en click and collect, autant d'obligations pour limiter bien évidemment le brassage de la population.
Eh bien merci Lionel Gougelot, vous étiez en direct donc de Dunkerque. L'exécutif a donc réagi très vite. Il faut dire que le gouvernement surveille l'accélération du virus de très très près.
Et on rappelle qu'il y a eu un conseil de défense sanitaire ce matin. Il s'agissait bien sûr de faire le point sur l'épidémie et Jean-Rémy Baudeau, une dizaine de départements inquiètent particulièrement l'exécutif.
Ah oui, des zones plus ou moins larges où les autorités s'inquiètent du taux d'incidence, des niveaux d'hospitalisation. Au-delà de la seule question de Dunkerque, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a listé.
Il y a la région Hauts-de-France, la région Île-de-France, la région Grand Est et la région PACA.
Voilà, dans ces régions, le gouvernement travaille à des réponses ciblées, locales et efficaces, dit-il. Voilà la nouvelle méthode. Des confinements locaux, Nice et Dunkerque comme étalon. On se prépare à faire basculer d'autres départements, confie néanmoins un important conseiller. Au sommet de l'État, on veut jouer à fond la carte du local, sans que pour l'instant on soit d'ailleurs vraiment sûr que le confinement week-end est la solution efficace. Mais il faut tout faire pour éviter un confinement.
Si nous considérions qu'il fallait aujourd'hui un confinement, nous aurions décidé d'un confinement. Tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national, sans évidemment certitude que nous y parviendrons.
Voilà, éviter un confinement national et total. Pour l'heure, en coulisses, on comprend que l'exécutif veut en fait surtout gagner du temps, laisser aux Français aussi la possibilité de profiter un peu de leurs vacances. On est dans un moment de vérité, me confie un ministre. La seule certitude, malgré les demandes de certains élus, notamment en Bretagne, c'est que le ton a changé et qu'il est désormais beaucoup plus grave et que l'heure n'est pas au relâchement.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, confinement le week-end ou pas, la clé des champs se trouve plus que jamais dans la campagne de vaccination.
Et à partir de demain, ce sera au tour des généralistes d'entrer en campagne. Un sur deux s'est déjà porté volontaire pour vacciner. Ils ont commencer à caler leur rendez-vous à Neugal.
Oui, et ils commencent à organiser des rendez-vous groupés par demi-journée, car le vaccin AstraZeneca est conditionné par flacon multidose qu'il faut utiliser rapidement. Au total, 2 millions de Français, les 50-64 ans présentant des facteurs de risque, sont concernés par cette vaccination en ville. La campagne va démarrer tout doucement, car les médecins n'auront à disposition cette semaine qu'un seul flacon chacun, de quoi proposer 10 injections seulement. Mais point positif pour le docteur Patrick Bouet, le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Le ministère de la Santé a communiqué des données rassurantes concernant les effets secondaires du vaccin.
Nous ne sommes pas réellement inquiets puisque les éléments scientifiques nous confirment dans le fait que ces effets secondaires ne sont finalement pas plus fréquents que ce qui était attendu. Et les médecins sont dans un processus d'explication. Mais vous savez, aujourd'hui, 54% de la population souhaite se faire vacciner. Les patients qui sont en attente ou en recherche de vaccination les utilisent et les utiliseront.
Et les interrogations concernent maintenant la montée en puissance du dispositif et la livraison des prochaines doses de vaccins AstraZeneca. Si l'on en croit les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé, plus d'un million de doses devraient être livrées dans la semaine qui vient. Et fin mars, nous devrions en avoir reçu 6,5 millions au total.
Précision signée Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Merci beaucoup Anne. Du côté de nos voisins européens, certains commencent à relâcher un peu la pression après le Royaume-Uni. La Suisse envisage à son tour de desserrer les trains.
Le gouvernement helvète annonce la réouverture des magasins, des musées et des installations sportives en extérieur à partir du 1er mars. Et puis, c'est tout, si tout va bien et si la couverture vaccinale augmente, d'autres assouplissements viendront à partir du 22 mars. Il sera possible, par exemple, d'aller sur la terrasse d'un restaurant.
Europe 1, 18h07. L'Essonne, toujours sous le choc hein, après la mort de deux adolescents au cours de deux bagarres.
Ils avaient tous les deux 14 ans. Un jeune garçon à Boussy-Saint-Antoine hier soir et une collégienne avant-hier à Saint-Chéron. Et dans cette affaire, Gladys Laffitte, six adolescents devraient être mis en examen ce soir.
Oui, six mineurs originaires de Dourdan présentés à un juge d'instruction. Le parquet a demandé à ce que l'auteur du coup mortel, un jeune homme de 16 ans, soit placé en détention provisoire. Il a avoué en garde à vue. Il est déjà connu de la justice pour deux infractions, mais sans lien avec des faits de violence. Cinq autres jeunes de 14 et 15 ans sont aussi mis en cause pour violence aggravée. La procureure de la République souhaite qu'il soit placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de paraître en Île-de-France.
Et alors, en ce qui concerne la bagarre qui s'est déroulée cette fois à Boussy-Saint-Antoine, Gladys, est-ce qu'on en sait plus sur les personnes impliquées ?
Oui, il y a sept personnes en garde à vue depuis hier soir, dont l'auteur des coups de couteau. En tout cas, il s'est présenté comme tel devant les policiers. Il s'est rendu de lui-même au commissariat hier soir. Il a 15 ans. Il est déjà connu pour port d'armes blanches et dit regretter son geste. Six autres jeunes de 17 ans seraient impliqués. Eux aussi sont interrogés par les enquêteurs. Deux sont connus de la police pour détention d'armes blanches et vol. Et les deux victimes, l'adolescent de 14 ans décédé et celui de 13 ans blessé, seraient originaires de Quincy sous Sénart. C'est la piste du règlement de compte avec la commune voisine d'Épinay-sous-Sénart qui est privilégiée. Des images existent de cette bagarre, de vidéoprotection, mais aussi une vidéo de témoins qui viendront aider les enquêteurs à établir les responsabilités de chacun. On en saura plus dans quelques instants puisque la procureure de la République d'Evry doit s'exprimer.
Gladys Laffitte du service police justice d'Europe 1, merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal, les comptes de la SNCF dans le rouge.
Et puis 6 heures de nage pour échapper à l'un des régimes les plus répressifs et dangereux du monde.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h10, c'est la suite du journal de Christophe Lamar sur Europe 1 et la SNCF a présenté ses résultats. On s'y attendait un peu, ils ne sont pas très bons.
L'entreprise a perdu 3 milliards d'euros l'an dernier, la crise sanitaire est passée par là. Pas ou peu de déplacements et beaucoup de télétravail, tout ça évidemment pèse sur les comptes. Mais Élise Dangean, il y a peut-être un motif d'espoir malgré tout, c'est que ça aurait pu être pire.
Oui, clairement, le groupe a limité la casse et il s'en félicite. Il peut dire merci à la diversification de ses activités. Car si le chiffre d'affaires de SNCF Voyageurs a fortement reculé de 28%, tiré vers le bas par des TGV qui ont perdu en moyenne la moitié de leur fréquentation habituelle, le groupe voit sa filiale logistique Géodis faire plus 4,5% de chiffre d'affaires. Il y a donc un phénomène de compensation, mais ça ne fait pas tout. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, le dit lui-même.
Alors on a fait ce qu'il faut pour, on a fait très attention, on a eu un plan d'économie assez massif, hein, de 2,5 milliards d'euros d'économie, qui fait que ça a compensé l'effet du Covid à peu près pour moitié. C'est encourageant, ça veut dire surtout qu'on est capable de réagir, on est prêt à rebondir. Quand la crise sera terminée, je suis sûr qu'on pourra repartir à fond pour retrouver tous les clients que nous avons perdus à cause de la crise.
Le groupe table désormais sur une reprise d'activité progressive à partir de l'automne avec un plein effet en 2022. Et pour inciter ses clients à revenir dans ses trains, il va notamment proposer à l'été une refonte tarifaire avec des prix plus bas et plus lisibles.
Précision d'Élise Dangean du service Éco d'Europe 1, toujours au chapitre des résultats. Accor annonce lui aussi des pertes importantes pour l'an dernier.
Moins près de 2 milliards d'euros de pertes. Le groupe hôtelier qui possède des marques comme Ibis, Sofitel ou encore Mercure a vu son activité s'effondrer de 60%. La crise sanitaire a obligé un certain nombre de ses établissements à fermer ou à tourner au ralenti.
Et on en vient à cette histoire assez incroyable. En Corée du Nord, un homme est parvenu à quitter le pays à la nage, et ce, malgré la surveillance militaire.
Il a passé 6 heures dans l'eau. Objectif, quitter le nord pour rejoindre le sud. Tout cela au nez et à la barbe des autorités nord-coréennes, mais aussi sud-coréennes, Mathieu Bock.
Oui, l'homme a nagé pendant 6 heures avec combinaison de plongée et palme dans les eaux de la mer du Japon, qui varie entre 5 et 10 degrés en ce moment. Il avait même enfilé une veste matelassée sous sa combinaison et grâce au courant favorable, il a donc défié tous les systèmes de surveillance nord-coréens, mais aussi sud-coréens, vous l'avez dit. Il a déclenché des alarmes anti-intrusion plusieurs fois et même apparu sur les écrans de vidéosurveillance, mais les militaires sud-coréens n'ont pas réussi à le localiser précisément. Après 3 heures de recherche, les soldats l'ont finalement retrouvé, endormi, épuisé par tant d'efforts. L'homme, un civil âgé d'une vingtaine d'années, avait en réalité réussi à s'engouffrer dans une canalisation d'évacuation d'eau qui passe sous les barbelés qui doivent en théorie empêcher toute entrée sur le territoire sud-coréen. Face aux militaires, il a expliqué qu'il venait de faire défection et qu'il voulait trouver refuge en Corée du Sud. À Séoul, cette évasion a créé une immense polémique. Les soldats sont accusés de ne pas avoir respecté les procédures, mais le système de surveillance et de protection obsolète est également pointé du doigt. Le ministre de la Défense en personne a dû reconnaître lors d'une audition parlementaire que les systèmes de surveillance étaient dépassés et fonctionnaient mal.
Voilà, c'est digne d'un roman ou d'un film d'espionnage. Incroyable histoire et incroyable récit signé Mathieu Bock.
Le rugby France-Écosse aura bien lieu.
Et oui, décision du comité d'organisation du tournoi Destination. L'équipe de France, dans sa version remaniée, a repris l'entraînement collectif. Aucun nouveau cas de Covid n'a été enregistré ces dernières 24 heures. Il me reste quelques secondes pour vous dire qu'il y a du football Nîmes-Lorient ce soir à 19h. C'est un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Et puis la suite et la fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Atalanta Bergame, Real Madrid et Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 21h.
Merci beaucoup. C'était le journal de Christophe Lamar que l'on retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info. Anissa Haddadi, la pluie est de retour demain, à l'ouest en tout cas.
Oui, sur le nord-ouest précisément Isabelle. La Bretagne, les Pays de la Loire et le Cotentin sont concernés par ce ciel qui sera un petit peu plus gris demain, avec des brouillards en début de journée et puis des pluies fines. Alors, ce sont des petites pluies, ce qu'on a communément l'habitude d'appeler le crachin en Normandie, par exemple. Donc voilà,
en Bretagne
demain,
aussi, on dit le crachin
en Bretagne aussi. Voilà, donc ça va ressembler à ça pour vous demain. Au bord de la Méditerranée, la journée commence avec des nuages bas, des brumes matinales qui viendront voiler le soleil de temps en temps. Et puis, dans l'après-midi, le temps restera couvert sur les Cévennes et le soleil apparaîtra au bord de la Méditerranée. Alors la très légère perturbation qui va toucher le nord-ouest demain va effectivement s'étendre dans l'après-midi sur les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Mais rassurez-vous, rien de très inquiétant. Dans l'ensemble, le soleil brille encore généreusement sur les trois quarts du pays. Avec des températures qui sont en toute petite baisse, on aura 2 degrés à Strasbourg, 4 à Nancy, Gap, 6 à Bastia, 10 à Paris, c'est la maximale pour demain matin. Et puis au meilleur de la journée, 11 à 20 degrés, 11 pour Saint-Brieuc, 13 au Havre, 15 à Lille, 17 à Paris et à Nice, 19 à Lyon et Belfort et 20 la maximale pour Manosque.
Merci Anissa, vous revenez tout à l'heure avec encore de bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, elle s'engage contre la précarité énergétique. Je reçois la comédienne Emmanuelle Béara tout de suite. Et ce soir sur Europe 1, j'ai le grand plaisir d'accueillir la comédienne Emmanuelle Béart. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. Alors, ça n'est pas en tant qu'actrice que vous êtes avec nous, mais pour parler d'une cause qui vous tient à cœur. Et on sait que vous avez un grand cœur, Emmanuelle Béart. Aujourd'hui, vous soutenez la fondation Stop à l'exclusion énergétique qui se mobilise contre un mal relativement invisible et qui concerne pourtant plusieurs millions de ménages en France.
Oui, ça concerne 12 millions de personnes, 6 millions de foyers, de gens qui vivent dans des conditions extrêmement dures, des gens qui ont froid, qui vivent dans des maisons insalubres où il y a de la moisissure, où les vêtements sont mouillés, les draps sont mouillés, les sanitaires inaccessibles. Enfin, c'est vraiment, j'ai été confrontée à quelque chose d'extrêmement violent.
Oui, parce qu'en préparant cette campagne, vous avez eu l'occasion, Emmanuelle Béart, de rencontrer ces familles qui vivent dans la précarité énergétique. Elles vous ont confié des choses assez terribles, hein ?
Oui, et d'abord, elles m'ont accueillie avec beaucoup de générosité. En même temps, ça a provoqué chez moi une grande émotion, une colère aussi certainement de me dire que dans un pays riche comme le nôtre, une des six puissances les plus riches au monde, il y a autant de gens qui pouvaient vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et alors, en plus aggravée par la crise du Covid, qui aggrave les disparités et qui fait qu'effectivement, quand ces maisons insalubres doivent devenir le lieu de travail ou le lieu d'école ou le lieu de soins, alors là, ça devient tout à fait insupportable.
Oui, parce que vous le disiez, la précarité énergétique en hiver, c'est vivre dans une maison où il fait aussi froid que dehors. C'est aussi le risque de mettre sa santé en danger et même parfois sa vie.
C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, tous d'élites. Généralement, ce sont des gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui perdaient leur emploi, beaucoup d'enfants qui ont des difficultés extrêmement fortes à l'école, qui ne peuvent pas inviter leurs copains. Beaucoup de personnes aussi âgées qui ont très très peur de vieillir dans ces conditions-là. Et en fait, le but étant d'essayer de rentrer dans un cercle vertueux. Et ça, j'ai rencontré aussi parce que j'ai vu des gens dont les maisons ont été rénovées. Et ça change complètement leurs conditions et leur sociabilité, retrouver du travail, faire en sorte que les enfants retravaillent bien à l'école. Enfin, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir l'évolution de la situation sociale.
Parce que ces personnes qui vous ont accueilli chez elles vous ont raconté leur histoire. Cette famille, par exemple, qui a acheté une maison, qui ne savait pas à quel point la vie y deviendrait terrible. On ne se rend pas forcément compte tout de suite quand on achète un bien des vices cachées, surtout quand on achète en plein été.
Pas seulement des vices cachés, en fait, c'est aussi la vie qui passe. C'est des gens qui ont soit hérité d'une petite maison, soit qui ont pu acheter une petite maison à crédit, parce qu'il s'agit de logements assez petits en général, enfin, tout ce que j'ai visité. Et puis petit à petit, les maisons se dégradent et puis les gens n'ont pas les moyens de faire des travaux. Et donc, on arrive à des situations sanitaires extrêmement difficiles. C'est avec une pollution de l'air à l'intérieur, oui, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il fait aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est souvent des gens qui ont basculé dans la pauvreté et qui n'ont plus les moyens et qui n'envisagent pas que des travaux soient possibles. Donc c'est là aussi mon rôle aujourd'hui, c'est de faire le lien, de rendre visible, comme vous le disiez, souvent des gens qui sont invisibles, qui ont honte de dire les choses, qui ont honte de parler de leur précarité, de leur maison, qui ont honte d'inviter des amis, même la famille. J'ai madame et monsieur, les premières personnes, je ne vais pas citer leur nom, que j'ai rencontrées, qui m'ont dit « mais on a honte d'inviter nos enfants et nos petits-enfants, on ne peut pas les prendre ». Donc voilà, donner la parole à ces gens-là.
Ouais, qui se sentent exclus, qui ne peuvent plus recevoir chez eux. Alors, vous êtes allé dans des maisons qui s'apparentent à des taudis, j'ai envie de dire. On ne parle pas d'une fenêtre à changer ou d'un radiateur à installer. Il y a pratiquement tout à faire.
Il y a tout à faire et c'est important de tout faire parce que, effectivement, si on fait les combles, il faut faire les sols, il faut refaire les huisseries. Souvent des gens, j'ai vu beaucoup, beaucoup de familles qui ont totalement arrêté de se chauffer parce que les factures d'électricité, de chauffage étaient beaucoup trop fortes. Donc, des gens qui ont arrêté de se chauffer. Beaucoup de chaudières à changer. Il faut que la rénovation soit complète pour qu'elle soit pérenne.
Bien sûr, on a le sentiment quand même que c'est un problème qui est de plus en plus pris en considération. Il existe aujourd'hui des aides d'État, hein, on en parle de plus en plus. Il y a la fameuse MaPrimeRénov qui permet de refaire par exemple l'isolation. C'est une aide bienvenue, mais ça ne suffit pas parce que les plus modestes, ils n'ont pas assez pour réaliser les travaux colossaux qui pourraient rendre leur vie supportable. Hein.
Alors oui, c'est vrai que l'État, c'est vrai que les collectivités territoriales font des choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de fondations qui font qu'on arrive à boucler, par exemple, quand on est éligible, donc quand on peut monter un dossier, on arrive à boucler à peu près 90% de la somme, mais pourtant, les 10% qui restent à charge pour la famille sont tout à fait insoutenables. Et donc, c'est aussi la raison de ma présence aujourd'hui. C'est un appel au don, mais c'est pas seulement un appel au don, c'est aussi un appel à des bénévoles, c'est aussi un appel à des possibilités de donner du matériel pour des entreprises. Et ce 10% qui reste à charge, il faut le financer.
Oui, et ce qu'il faut dire aussi, parce que c'est important, me semble-t-il, Emmanuel Béard, c'est que la Fondation elle fait appel pour les travaux de rénovation énergétique à des artisans locaux. Hein.
Oui, oui. Donc en plus, ce qu'on disait tout à l'heure sur le cercle vicieux et le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens qui retrouvent des emplois, mais ça crée aussi des emplois dans les communes, les localités. Ça crée des emplois dans le bâtiment.
Ça n'est pas la première fois qu'on vous voit, Emmanuel Béard, vous mobiliser pour les plus démunis. Vous aviez même dormi avec les sans-papiers en 96 à l'église Saint-Bernard à Paris. Vous avez parcouru le monde pour défendre les enfants en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF. Ça veut dire que vous arrivez à rester connectée au monde réel parce que c'est ce que l'on reproche parfois à ceux qui ont réussi, pas seulement dans le milieu artistique d'ailleurs.
Oui, en même temps, moi je trouve qu'il faut regarder tous ceux qui s'engagent. J'ai été élevée comme ça, j'ai été élevée avec une mère qui avait une association qui s'appelait Réflexe Solidarité, donc ça a sans doute développé mon réflexe de la solidarité. Ça donne un sens aussi, hein. Ça donne un sens à son existence, je trouve.
L'engagement, c'est un héritage.
Je ne crois pas à l'altruisme seulement. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui donne un sens.
Et c'est un engagement que vous ont transmis vos parents, que vous transmettez aussi aujourd'hui à vos enfants ?
Oui, mais vous savez que les enfants, il ne faut pas dire, il faut faire, ils voient ce qu'on fait. Les enfants voient, moi j'ai vu ma mère se battre pour donner à manger aux gens, pour remplir des papiers, pour leur trouver des logements, pour leur faire accéder à leurs droits. J'ai un père qui chante « Je suis de toutes les couleurs et surtout de celles qui pleurent ». Moi, j'ai été élevée comme ça et j'ai regardé mes parents faire et non dire. Je les ai regardés faire, donc je pense que mes enfants, et je le sais parce que j'ai déjà deux grands, qui sont dans une forme d'engagement, chacun à leur façon.
Au-delà de la précarité énergétique dont on parlait tout à l'heure, j'imagine que vous êtes concernée également par la précarité induite en ce moment par la crise sanitaire que nous vivons.
Bien sûr, mais je vous ai dit, ça aggrave les disparités. Nous aussi, dans le milieu de la culture, on est très gravement atteint et touché. Et il y a beaucoup de gens dans nos métiers, souvent on se dit dans la culture, mais d'abord je trouve que c'est essentiel dans cette période du Covid, c'est-à-dire que c'est une nourriture de l'âme et du mental. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de basculer dans nos métiers, dans une grande, grande précarité.
Donc pour vous, il y a urgence à ce que tout ça reparte, à ce qu'on rouvre les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle.
Oui, enfin, j'ai surtout jamais compris pourquoi on les a fermés. Quand il s'agit de faire consommer les gens, on ouvre les choses, on ouvre les vannes, on ouvre. Donc, et puis, quand il s'agit de culture, on nous ferait croire que ce n'est pas essentiel. Je trouve ça complètement fou.
Merci beaucoup, Emmanuel Béard.
Je vous en prie.
Merci, ambassadrice pour la Fondation Stop à l'exclusion énergétique. Pour faire un don, il suffit d'aller sur le site de la Fondation. On rappelle que ces dons, ils bénéficient d'une déduction fiscale de 66% pour les particuliers, de 60% les entreprises. Et on rappelle aussi qu'il faut 5 000 euros pour permettre à une famille de sortir de la précarité énergétique.
Exactement. Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci beaucoup.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et les grandes voix du mercredi. À tout de suite. 18h30, l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamar.
Dunkerque et son agglomération confinés le week-end, mesure qui entrera en vigueur vendredi soir à partir de 18h jusque lundi matin 6h. Les déplacements ne seront possibles que pour certains motifs. Les centres commerciaux ne fonctionneront qu'en mode cliquer, emporter. Le gouvernement qui n'exclut pas d'autres mesures coercitives dans une dizaine d'autres départements ou agglomérations, l'Île-de-France fait partie des zones surveillées de près. L'UNEDIC prévoit un trou de 10 milliards d'euros dans les caisses de l'assurance chômage cette année. L'organisme anticipe la destruction de 230 30 000 emplois liés en partie à la fin prévisible des aides de l'État. C'est la plus importante saisie de drogue jamais réalisée en Europe. Les douaniers allemands ont mis la main sur 23 tonnes de cocaïne. La marchandise était stockée dans des conteneurs dans les ports d'Hambourg et d'Anvers en Belgique. Valeur à la revente, plusieurs milliards d'euros. Enfin, le rugby, France-Écosse aura bien lieu dimanche. Aucun nouveau cas détecté chez les Bleus qui ont repris l'entraînement collectif aujourd'hui.
Merci Christophe Lamar, c'est une bonne nouvelle ça. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, on vous retrouve. Et vous nous disiez tout à l'heure que le ciel demain serait un petit peu plus couvert. Hein ?
Oui, légèrement, avec le retour des brouillards matinaux sur le golfe du Lion et le sud-ouest. Soyez prudents, hein, si vous devez prendre la route, il y aura effectivement pas mal de brume et de brouillard. Nous avons une perturbation aussi qui touche le quart nord-ouest demain, mais c'est une toute petite perturbation, très peu active, qui apporte des pluies fines toute la journée sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France dans l'après-midi. Sur le Languedoc, le temps reste sec, mais assez nuageux. Hein. C'est vrai que le ciel sera quand même gris au-dessus des Cévennes. Partout ailleurs, le soleil brille. C'est encore une belle journée pour demain. Les températures, elles baissent un tout petit peu. On aura 2 à 10 degrés le matin et 11 à 20 degrés demain après-midi. 11 à Saint-Brieuc, 14 pour Montpellier, 17 à Paris, 19 à Lyon et 20 pour Gap.
Merci beaucoup, Anissa. On vous retrouve tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
Et à 18h31, on ouvre le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney, le politologue Pascal Perrineau et Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci de m'accompagner ce soir. Alors depuis hier, on a la date. Hein. Les élections régionales, prévues initialement en mars, ont été reportées. Vous le savez, elles se tiendront finalement les 13 et 20 juin. Si bien sûr, la crise sanitaire ne remet pas encore une fois tout en cause. Traditionnellement, les régionales, ça n'attire pas les foules. Pourtant, c'est un scrutin très important. Vous allez me le confirmer, d'autant plus qu'on sera à moins d'un an de la présidentielle. Il y a beaucoup d'enjeux que les Français ont parfois un peu de mal à cerner, semble-t-il. Il y a souvent beaucoup d'abstention. Je voudrais qu'on s'arrête sur ces enjeux qu'on oublie parfois, qu'on parle d'abord des enjeux économiques, peut-être, parce que c'est très important hein, dans une élection régionale. Les régions, c'est un maillon essentiel de l'activité économique. C'est elles qui ont la compétence pour aider les entreprises, notamment. Pascal Perrineau.
Tout à fait, oui. Surtout depuis la dernière loi de 2014, les régions ont monté en puissance. Vous savez, on a plusieurs collectivités, bien sûr les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Les régions étaient un peu le parent pauvre jusqu'à maintenant des compétences et elles ont vu leurs compétences sensiblement augmenter, particulièrement sur le terrain du développement économique. Ce sont ces régions qui ont la vision prospective aussi de ce que peut devenir un territoire, hein, au travers des schémas de développement économique, d'innovation et internationaux. Et donc, ces régions jouent un rôle extrêmement important, surtout que ces régions sont montées en puissance. Avant, c'était de petites régions. Depuis la réforme de 2014, ce sont maintenant des régions qui sont des régions, pour certaines, extrêmement importantes, à la taille des grandes régions allemandes, des grandes régions espagnoles. Hein.
Et avec des très gros budgets hein, qui se comptent en milliards.
Bien sûr, bien sûr, de très très gros budgets. Et puis dans les collectivités, il y a une caractéristique toujours. Ce sont des budgets, beaucoup d'investissements, plus que de fonctionnement. Alors qu'ailleurs, le fonctionnement l'emporte souvent sur l'investissement. Donc, il faut suivre attentivement ces régions. Les élections régionales sont bien sûr importantes en tant que telles. Elles sont couplées avec les départementales. Donc, sur des territoires plus traditionnels où le département est une réalité quotidienne, ça peut attirer des électeurs. Et puis, n'oublions pas, on va être 11 mois avant l'élection présidentielle. C'est le dernier comptage électoral en grandeur réelle avant la présidentielle.
Oui, on va revenir sur cet enjeu-là, qui est effectivement un autre enjeu, qui est un enjeu politique, mais pour venir à l'enjeu économique et un peu plus global, le candidat pour lequel on va voter au régional, c'est celui qui va décider, par exemple, du prix des transports, de la gratuité ou non des manuels scolaires au lycée, du soutien économique des entreprises locales, de la politique culturelle. Et en réalité, une élection locale, c'est ça, mais sauf que dans l'esprit des gens, elle est pratiquement considérée comme nationale, éloignée de leur quotidien, non, Catherine? Comment ça se fait?
Ça se fait que peut-être les présidents de région localement ne font pas assez de pédagogie auprès de leurs électeurs. Et d'ailleurs, moi, je crois que dans certaines régions qui sont devenues des monstres, hein, notamment la Nouvelle-Aquitaine, je ne suis pas sûre que dans le Poitou, on sache qui est le président de la région, qui est M. Rousset. Ça, je ne, je, Je crois que c'est... Donc, les Français s'y intéressent peu et néanmoins, ça va être une grande élection politique parce que... Alors, vous savez, il y avait 22 régions dans l'Hexagone. Maintenant, il n'y en a plus que 13.
Oui.
Et puis, il y en a 5 ultramarines parce qu'elles ont, sur ces 13 régions, il y en a 7 qui sont gouvernées par la droite ou le centre-droit, 5 par le PS, par les socialistes. Il y a la Corse qui est par les nationalistes. Et dans cette élection, tout pour Emmanuel Macron, ça va être un grand enjeu. C'est-à-dire comment, après des municipales où les résultats ont été très mauvais, là, que peut-il espérer? Il a essayé de mettre des ministres partout dans les régions et la plupart sont récusés parce qu'ils ont senti qu'ils allaient au casse-pipe. Donc, il va y avoir des candidats en marche, mais que vont-ils faire? C'est-à-dire, est-ce qu'un candidat en marche peut faire chuter Madame Pécresse? C'est-à-dire, quel est le pouvoir des macronistes? Est-ce que c'est un pouvoir de nuisance ou c'est un pouvoir de conforter les présidents de région qui, à leurs yeux, auront bien travaillé? Voilà, ouais. Moi, je pense que c'est la question politique qu'on se pose.
Effectivement, Éric Scholl, ces élections, elles sont toujours passionnantes parce qu'elles donnent lieu à l'élaboration de stratégies, d'alliances qui ne sont pas toujours les mêmes selon les régions. C'est ce que vient de dire Catherine Ney. On va piocher à droite ou bien à gauche. Pour l'observateur qui ne baigne pas dans la politique, c'est parfois un petit peu déroutant.
Oui, d'autant plus que pendant longtemps, en fait, effectivement, on ignorait qui étaient les présidents de région. C'est des gens qu'on connaissait moins bien. Ça, je pense que les choses ont commencé à changer. D'abord parce que lors des dernières régionales, on a commencé à voir vraiment des gens d'un niveau, des cadres politiques arriver. On les voit aujourd'hui, que ce soit un Xavier Bertrand, une Valérie Pécresse ou un Wauquiez. Donc on a quand même aujourd'hui des gens qui ont exercé des responsabilités importantes à niveau ministériel, qui sont en tête de région. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la crise sanitaire. Et là, on a vu ces régions agir. On les a vues en première ligne, le plus souvent, notamment sur l'affaire des masques, quand il a fallu gérer les masques, distribuer les masques, on a vu les régions être, non pas le suppléant, mais venir même plus qu'à la rescousse de l'État, au moment où l'État était parfois un peu défaillant, où l'État était incompétent sur le plan logistique, incompétent. Et là, il y a eu le relais, heureusement d'ailleurs, des régions. Régions qui sont aussi d'ailleurs beaucoup impliquées dans les plans de relance. C'est un moment important. Tout à l'heure, on parlait de la partie économique des investissements qui vont être faits. Et c'est vrai que, notamment, la partie transport, c'est très important, les infrastructures. Mais il y a cette partie de plan de relance. On a
beaucoup
parlé
du plan de relance au niveau national.
Au niveau régional, il y a cet élément qui est un maillon essentiel puisque c'est celui de la vie quotidienne pour tous les Français qui sont dans les régions. Et alors, pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a un intérêt qu'on voit d'ailleurs dans les sondages plus important de la part des citoyens pour ces élections. En fait, on est en train de découvrir qu'effectivement, ce n'est pas totalement désincarné. On a des présidents de région ou des présidentes de région qui peuvent agir pour le quotidien. Et je pense qu'en ce sens-là, l'élection du mois de juin est assez nouvelle.
Oui, parce que c'est de plus en plus concret, effectivement, le rôle des régions dans l'esprit des citoyens. On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. À tout de suite, les Grandes Voix. 18h39, on poursuit sur Europe 1 notre débat des Grandes Voix, avec toujours à mes côtés Catherine Ney, Pascal Perrineau, Éric Scholl. On parle des élections régionales qui devraient, finalement, si tout va bien, se tenir les 13 et 20 juin. On a parlé, il y a quelques instants, des enjeux économiques importants de ces élections, qui sont toujours passionnantes et qui le seront encore plus, car nous serons à moins d'un an, on le disait, de la présidentielle. Il y a donc évidemment un très gros enjeu politique. Si vous le voulez bien, on va prendre des exemples. Plusieurs candidats potentiels sont des présidents de région aujourd'hui. Donc ce sont ces personnalités-là que l'on va scruter peut-être un peu plus que les autres. Par exemple, Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France, une victoire, ça pourrait lui donner une sacrée dynamique, Pascal Perrineau.
Tout à fait, surtout à l'heure où la droite et son principal parti, les Républicains, ne savent pas comment s'y prendre pour sélectionner, pour départager, comme dit Gérard Larcher, le président du Sénat, pour départager les candidats qui iront à l'élection présidentielle au nom de la droite. Et là, d'une certaine manière, les régionales, ça va être un des premiers éléments du départage. Parce que si vous avez un Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France qui fait un sans-faute et réélu avec un score, non pas de maréchal, mais un score important, eh bien, il s'imposera au-delà de ses bonnes performances dans les sondages. Là, il deviendra un homme presque incontournable pour la droite. Et dans le match qui existe entre Valérie Pécresse en Ile-de-France et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, la manière dont ils seront réélus sera certainement un élément important pour le départage, en particulier entre cet homme et cette femme qui, pour l'instant, quand on regarde les sondages, sont les mieux placés pour être des candidats de droite qui pourraient venir perturber le duo Rassemblement national République en marche, le duo Macron-Le Pen.
Est-ce qu'il y a d'autres régions qu'il va falloir suivre avec particulièrement d'attention, Catherine Ney, pour ces régionales ?
À part ces deux régions que vient de citer Pascal Perrineau, c'est parce que ça aura un enjeu pour l'année qui suivra.
Bon. Bien sûr.
Mais là, évidemment, ce qui va être intéressant, c'est que ces présidents de région, on les connaît peu, peut-être au niveau national, bien qu'on les ait vus apparaître, sûrement le Covid a montré qu'ils jouaient un rôle important auprès de leur population, mais on les connaît. Et je ne sais plus ce que je veux dire.
Ah ben moi non plus. Je voudrais bien vous aider.
Mais non, mais excusez-moi, j'ai perdu le fil. Vous me demandez.
Est-ce qu'il y a d'autres régions qu'il va falloir suivre avec particulièrement d'attention pour ces régionales ? Pense peut-être à la Provence-Alpes-Côte d'Azur où le Rassemblement national est en embuscade.
Parce qu'on a vu que le sortant fait des appels du pied aux macronistes, oui. Et donc qu'ils comptent sur leur concours pour être réélus. Oui. Et ce qui est intéressant, on voit que là, le candidat du Rassemblement national, ce sera j'ai oublié son nom, écoutez, ça va
peut-être
très mal, Mariani.
Qui
lui était vraiment candidat en 92 contre Jean-Marie Le Pen. C'était la droite contre Jean-Marie Le Pen. Et là, il est investi par le Rassemblement national.
Oui.
Donc, ça va être intéressant pour voir quel score il va faire. Parce que après Jean-Marie Le Pen, c'était la petite fille qui était arrivée, qui avait été candidate. Donc, ça va être intéressant aussi de voir ce que va faire le Rassemblement national. Parce qu'on voit que les candidats que Marine Le Pen désigne, eh bien, ce sont des gens qui sont soit d'anciens RPR, comme M. Garot...
Jean-Paul Garot, ancien UMP qui a été désigné tête
donc,
de liste en Occitanie.
Elle est dans une voie de normalisation. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? Est-ce que ça va permettre au Rassemblement national d'engranger des voix ou le contraire ? C'est un pari, on ne le sait pas. Donc ça va être politiquement très intéressant cette élection pour mesurer les équilibres nouveaux de à peu près tous les partis.
Éric Scholl, vous êtes d'accord, ça peut être déterminant pour le Rassemblement national de montrer qu'il n'est pas un parti solitaire, qu'il peut récupérer des élus locaux à droite,
Catherine,
par exemple.
Oui, Catherine a tout à fait raison, on va regarder le Sud, on va regarder le Nord sur le Rassemblement national.
Allons-y.
Et puis évidemment, on va regarder les performances ou pas de La République En Marche. Ça c'est... Évident que ça va être pour eux une comme les municipales n'ont pas été une bonne élection pour
non,
eux.
Même
on sait
assez
que
catastrophique,
les régionales
on peut le dire,
sont
oui.
jamais sont parfois difficiles pour les partis au gouvernement. On se souvient c'était les élections du temps de lorsque Sarkozy était au pouvoir régional avait pris une claque pour la droite et plusieurs ministres qui s'étaient présentés, il y en a un d'ailleurs qui avait dû payer puisque Xavier Darcos avait dû quitter le gouvernement parce qu'il était présenté je crois en Dordogne ou dans le Périgord et il avait dû quitter le gouvernement. Donc pour les ministres qui auront le courage d'y aller, et on voit que c'est parfois difficile, mais il y en a qui vont essayer d'y aller, ça ne va pas être facile.
Il y a Marc Fesneau dans le centre.
Il y a sans doute Attal qui va se présenter peut-être en Ile-de-France, on
Gabriel
verra
Attal,
ce qu'il s'adonne.
Oui.
Ce n'est pas décidé, ça, je ne crois pas du tout.
Pascal Perrineau.
Oui, et puis, si vous voulez, au-delà, ce qui est très intéressant dans ces régionales, on va voir si elles prolongent les municipales. Les municipales, la principale leçon, comme le disait Catherine Ney, c'est la claque, en effet, pour La République En Marche. Et c'est la résistance étonnante des forces traditionnelles, le Parti socialiste et les Républicains. Est-ce qu'on aura la même chose au régional ? Est-ce que ce sera, d'une certaine manière, la réplique des municipales avec une très bonne résistance de LR, là où ils ont des exécutifs, et du Parti socialiste, là où il a des exécutifs ? Cependant, le Parti socialiste, il faut bien voir que lors des dernières régionales de 2015, il avait connu une très forte érosion. Est-ce que cette érosion continue ou est-ce que c'est un coup d'arrêt ? Il faudra suivre attentivement des régions, par exemple, comme le Centre, des régions également comme Bourgogne-Franche-Comté, où les socialistes ont des présidences, mais ils peuvent être menacés. Ils peuvent être menacés par une éventuelle poussée de la droite et du Centre. Et puis, il faudra regarder toujours, c'est un laboratoire merveilleux, les régionales pour les alliances. Pour les alliances, parce que c'est une proportionnelle, avec un correctif majoritaire, mais à deux tours. Donc, quelles seront les alliances entre les forces politiques entre les deux tours? Est-ce qu'on va voir, en effet, ici, une droite, par exemple, s'allier avec le RN pour mettre Bouteor, par exemple, une présidente socialiste, comme en Occitanie, par exemple, hein? Ou est-ce qu'il y aura refus de ce type d'alliance? À gauche, est-ce qu'on va avoir des alliances de gauche extrêmement larges jusqu'à la France insoumise? Ou est-ce que ça va être réduit plutôt au Parti socialiste et à ses alliés traditionnels, dont l'écologie? Et quelle sera également la performance de l'écologie? Est-ce que la poussée écologiste a été, au fond, un tout petit sursaut non suivi d'effet? Ou est-ce que les écologistes vont trouver une capacité à transformer l'essai? Vous voyez, avant, à quelques mois de la présidentielle, c'est décisif.
Et on sent que ça vous intéresse, c'est un beau terrain de jeu pour le politologue que vous êtes. On va changer de débat dans un tout petit instant, les grandes voix. Bataille en vue à l'Assemblée autour de l'écriture inclusive. Eh oui, à tout de suite. 18h49, suite et fin de votre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec Catherine Ney, Pascal Perrineau et Éric Scholl. Alors, 60 députés viennent de déposer une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive que l'on commence à voir apparaître dans les documents relatifs à la vue publique, les actes administratifs, les comptes rendus, les communications. Alors, vous allez me dire, ça n'est pas nouveau, hein, cette polémique sur l'écriture inclusive, mais manifestement, ça prend encore de l'ampleur. Les grandes voix, est-ce que c'est un vrai combat, selon vous ?
Oui, oui, c'est un vrai
Pascal
combat.
Pascal Perrineau, oui.
C'est un vrai combat qui agite pour l'instant quelques populations complètement minoritaires, mais j'allais dire qui sont très présents sur la scène publique, à l'université, dans les médias, dans les journaux. Hein. Alors, ce combat de l'écriture inclusive, parce que c'est vrai que c'est un instrument de combat. Je viens de lire une interview formidable de cette romancière étonnante qui est Alice Fernet, qui est une femme qui, elle, avec le langage, a un rapport qui n'a rien à voir avec la pesanteur de l'écriture inclusive, qui dit « Attention, il y a là un véritable instrument de combat contre le patrimoine culturel français. Hein, » parce que c'est, ça va bien au-delà de ce qui était tout à fait légitime, c'est-à-dire le mouvement de féminisation des mots, voilà, des fonctions... préfet, préfète, voilà, très bien. Mais là, ça va beaucoup plus loin. On touche au langage écrit, à la structure même du langage, avec ce qu'on appelle les points médians, vous savez, les étudiants et les étudiantes, alors ça devient les étudiants point .s. Ouais. Ça va beaucoup plus loin. On ne dit plus pour les pronoms il et elle, on dit il, I-L-E-S. Ouais. Vous voyez, c'est une déstructuration du langage tel qu'il est, alors que le langage évolue, très bien. Mais le langage, ça évolue quand les mœurs eux-mêmes évoluent. Hein, et ça évolue très souvent, d'ailleurs, par le biais de l'oral. Il y a des expressions orales qui vont peu à peu passer dans l'écrit. Mais là, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est quelques minorités extrêmement actives qui veulent imposer leurs lois.
Oui, on voit qu'il y a plusieurs partis de gauche, la France Insoumise, le PS, Europe Écologie Les Verts, qui ont adopté déjà cette nouvelle forme d'écriture dans les tracts, par exemple. Il y a des élus, comme à la mairie de Paris, qui font leur com' en écriture inclusive. À Lyon, mairie écologiste, elle a même été adoptée pour tous les actes administratifs. Est-ce que ce n'est pas aussi une nouvelle bataille idéologique, Éric Scholl ?
Si, c'est même un marqueur idéologique. Et ce qui est, après tout, que les partis l'utilisent dans leur propre... communication, on peut leur laisser ça. En revanche, que on voit l'usage de cette écriture inclusive se développer absolument partout, et notamment à l'université, ça devient très grave parce que c'est aussi un marqueur idéologique. Et celui qui ne va pas l'utiliser, il va être catégorisé, on va le mettre dans un coin. Bah tiens, lui, il n'est pas de ce clan-là. Et puis, moi, je vois quand même quelque chose de plus grave, c'est qu'on est en train de... cette écriture inclusive, elle est incompréhensible. C'est une incapacité. Comment voulez-vous transmettre ça aux enfants à qui on essaye déjà d'apprendre à lire
Alors,
et écrire en français?
Justement.
C'est quand même leur rajouter des difficultés. Ces mêmes personnes qui se battent en permanence pour dire il faut aider toutes les populations en difficulté. Mais le premier point, c'est justement de leur faciliter la tâche et de ne pas leur rajouter des obstacles. C'est un obstacle c'est incroyable. On oublie ça. En fait, c'est tout simplement un facteur d'inégalité de développer cette
justement, écriture. Je voulais vous faire écouter Annie Genevard, qui est députée LR et qui est l'une des signatures de ce texte qui demande l'interdiction de l'écriture inclusive.
Rien ne protège la langue. L'Académie française est là pour régler certains usages et puis établir le dictionnaire. C'est la raison pour laquelle, je vais vous donner un exemple tout simple, La féminisation du mot chef, puisque c'est une des grandes applications de l'écriture inclusive, pour les uns, c'est chef-eux, et pour les autres, c'est une chef. Quelles règles va-t-on apprendre aux enfants ?
Oui, c'est ce que vous disiez, Éric Scholl. Hein. Catherine Neck, quelles règles va-t-on apprendre aux
enfants ?
Oui,
c'est vrai qu'il n'y a pas de règles. Alors, du coup, on devient auto-entrepreneur de la langue, alors que pour les enfants, c'est très, très difficile. Par exemple, alors, François Jolivet, qui est le député qui a lancé cette loi pour interdire avait 60 députés, maintenant il en a 73. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment la parité. Il y a autant de femmes députées que d'hommes qui ont signé la loi. Et il dit qu'il reçoit beaucoup de témoignages de gens qui ont des difficultés à lire, à écrire, les dyslexiques, même les dysphrasiques, je ne sais pas ce que c'est, ça recoupe exactement quoi, mais qui sont complètement perdus et qui n'arrivent pas à apprendre à lire et à écrire. Il y a aussi les aveugles qui ne peuvent pas reconnaître dans les documents ce qui leur est envoyé. Donc, quand Roselyne Bachelot, qui est contre, dit que c'est vraiment une mesure imposée par une certaine élite, entre guillemets, c'est vrai, ça ne s'adresse pas à tous. Et je crois même qu'à Sciences Po, il y a une charte qui s'applique à tous, qui a été recommandée aux étudiants, aux enseignants, au personnel, où on recommande l'écriture inclusive.
Vous confirmez, Pascal Perrineau ?
Écoutez, moi, je n'utilise pas, je suis professeur à Sciences Po,
c'est pour ça que je pose la question.
Je n'utilise pas l'écriture inclusive, j'utilise la féminisation des fonctions, mais ça, c'est quelque chose de très nettement antérieur. Hein. C'est ce qu'on appelle l'écriture épicène. Bien.
Dans tout ce qu'on vient de dire, c'est très intéressant.
Mais vous recevez des documents
des documents.
De la maison.
Oui, on reçoit des documents plutôt du milieu étudiant. De certains milieux étudiants qui sont en écriture inclusive. Et très souvent, c'est amusant parce que... Enfin, c'est amusant et parfois un
peu désespérant.
Ça doit
faire un peu mal à la tête, non ?
Voilà, c'est assez difficile à lire. C'est très laid pour ceux qui sont des amoureux de la langue française. Et puis, ça commence en écriture inclusive. Puis parfois, on sent que ça devient un tel casse-tête, même pour ceux qui écrivent comme ça, qu'ensuite, on retombe dans le langage normal.
Ah oui.
Mais en effet, il faut insister sur le fait que c'est socialement extrêmement injuste. Et culturellement, c'est extrêmement discriminant parce que, bonjour, moi je le vois, les étudiants étrangers qui ont déjà un mal fou avec la langue française, quand il va leur falloir apprendre la langue française en écriture inclusive. Donc c'est exsudés d'or, vous voyez, extrêmement sympathique avec de multiples guillemets, c'est extrêmement discriminant, c'est des comportements de minorité.
Juste en une phrase, ça mérite une loi pour l'interdire, Éric Scholl ?
Il faut l'interdire.
Bon, il y a déjà une circulaire, celle de 2017, qui interdit
validée par le Conseil d'État.
Voilà, dans l'administration.
Merci beaucoup à vous, les grandes voix du mercredi. Dans un tout petit instant, toute l'info avec le journal de Christophe Lamarre. À tout de suite.